divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Elisabeth Crémieux, bonjour.
Bonjour.
Vous avez enseigné l'histoire et géographie économique au lycée Lavoisier pendant une longue période où vous avez enchanté un nombre considérable d'étudiants. Vous avez également enseigné à Sciences Po et vous avez publié une géopolitique de la condition féminine en février 2014 au PUF. Depuis lors, vous avez chez Studirama en novembre 2015 publié un ouvrage sur les migrations. Si j'ai la chance de vous interroger aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, ce dimanche 28 février, c'est pour que nous évoquions ensemble une commémoration qui aura lieu dans un peu plus d'une semaine, mardi 8 mars 2016, et qui va nous permettre d'évoquer des aspects difficiles et contradictoires de l'histoire, puisque le 8 mars est la journée internationale de la femme pour l'ONU, la journée du droit des femmes pour le gouvernement français, la journée de lutte pour les droits des femmes pour les militantes. Alors, Elisabeth Crémieux, première question, que peut-on dire de ces différentes appellations ?
On peut dire que parmi ces appellations, certaines sont consensuelles, certaines sont militantes, certaines sont super militantes. Mais quand on dit que l'ONU parle de la journée internationale de la femme, c'est une erreur de traduction parce qu'en anglais, c'est « women's » avec un « e ».
Donc des femmes.
Des femmes, oui.
D'accord.
L'important de toute façon, quelle que soit la dénomination que l'on retient, c'est que cette journée existe et qu'elle conduit à faire un bilan de la situation des femmes et qu'elle rappelle que les luttes des femmes et des féministes sont plus que jamais nécessaires.
Et d'actualité.
Et d'actualité.
Alors, c'est à l'historienne que je parle pour ma deuxième question parce que nous allons essayer d'établir l'histoire de cette date du 8 mars qui a été choisie dans l'histoire pour des raisons un petit peu complexes. Est-ce que vous pourriez nous dire les raisons pour lesquelles, au fond, on s'est arrêté au 8 mars dans l'histoire pour célébrer les femmes ?
Alors là-dessus, il y a plusieurs récits différents. La première chose à dire, et ça c'est absolument certain, c'est que la première à proposer une journée internationale des femmes, c'est Clara Zetkin, qui était donc une communiste allemande, en 1910, à la deuxième conférence internationale des femmes socialistes. Mais Clara Zetkin ne choisit pas de jour. Et le 8 mars s'est imposé au cours des années 1910, mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Par exemple, en 1911, il y a eu une journée internationale des femmes le 19 mars.
Mmh.
Alors, une des raisons pour lesquelles le 8 mars a été retenu, c'est, nous dit le récit, parce que la révolution de février 1917 en Russie a commencé le 8 mars. Alors, pour comprendre ça, il faut savoir que la Russie avait conservé le calendrier julien et que le 23 février dans le calendrier julien, ça correspond au 8 mars dans le calendrier grégorien. Et donc le 8 mars à Petrograd, qui était dans un état de famine épouvantable, les femmes se sont révoltées, c'est un peu une émeute de la faim, et elles ont entraîné dans la protestation les ouvriers des usines, et on considère que c'est un des points de départ, ou le point de départ de la première révolution russe, celle de février.
D'accord.
Alors ensuite, Lénine a proclamé le 8 mars journée internationale des femmes en 1921.
Mmh.
Et cette journée du 8 mars est devenue la journée des femmes dans tous les pays communistes après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Union soviétique a cessé d'être le seul pays communiste à la surface du globe.
D'accord. Donc, ce qu'on comprend bien à ce que vous dites, c'est que c'est une fête, le 8 mars, des pays communistes, et c'est Lénine qui décide de l'instaurer comme telle en 21. Mais alors, le 8 mars 21, il y a plusieurs choses en même temps,
oui.
On est d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette décision de Lénine de faire du 8 mars le 8 mars, Et puis, il y a cette terrible histoire des marins de Kronstadt.
Alors, les marins de Kronstadt sont héros de la révolution d'octobre, puisque la flotte de guerre russe se trouve au large de Petrograd, à Kronstadt, et ils ont puissamment aidé les bolcheviks en novembre, donc en octobre. Toujours pareil. Et c'est même eux qui se sont vus confier la garde du palais d'hiver. Donc ils ont participé à la révolution bolchevique. Ils sont héros de la révolution. Mais en 1921, ils sont, comme une grande partie de la population, excédés par la dictature épouvantable qui a été installée par Lénine et Trotsky. Et ils vont proposer un retour à la démocratie avec comme slogan « Vive les soviets », c'est-à-dire les conseils, « Vive la démocratie », »,« Abat les bolcheviks ». Mais Lénine n'était pas du genre à négocier, Trotsky non plus, et donc Lénine et Trotsky ont envoyé les troupes pour réduire cette révolte, troupes qui ont pu la réduire facilement parce que le golfe de Finlande était gelé, donc elles ont pu progresser sur la glace et prendre les bateaux. Et ça en a été fini de la révolte des marins de Kronstadt. Mais ils ont eu le temps d'adresser, le 8 mars, au moment où commence l'offensive de l'armée, un message aux femmes du monde, aux travailleuses du monde.
Voilà, et les marins de Kronstadt en train de mourir adressent aux travailleuses du monde un message de solidarité et de combat.
Exactement.
Et ils vont tous être liquidés.
Non, ils ne seront pas tous liquidés. Non, pas tous. Quelques-uns arriveront à s'enfuir. Non.
D'accord.
Mais le mouvement, lui, sera liquidé. Simplement, Lénine prendra en compte les revendications des marins de Kronstadt pour changer de politique et lancer la nouvelle politique économique.
D'accord.
On les liquide et puis après on fait ce qu'ils demandaient, un peu.
Ce qu'on comprend avec ce 8 mars, c'est que c'est d'abord une initiative des pays de l'Est, des pays communistes. Et il y a l'histoire que j'aime beaucoup du mythe autour du 8 mars, qui naît, je crois, dans un article de l'Humanité en 1955, où on invente une histoire des travailleuses américaines pour essayer de généraliser au monde entier ce qui est né d'abord dans les pays socialistes.
Oui, exactement. Donc en 1955, l'Humanité fait remonter le 8 mars à une grève qui aurait eu lieu aux États-Unis parmi les ouvrières du textile le 8 mars 1857. C'est une très belle histoire, mais c'est une histoire inventée, comme l'ont prouvé 20 ans après des historiennes qui sont allées regarder un peu ce qui s'était passé.
Alors, la belle histoire qui nous permet, ou qui aurait permis de penser une célébration vraiment internationaliste, c'était que des ouvrières du textile américain avaient toutes brûlé dans une usine parce que les patrons avaient fermé les portes de l'usine pour que les ouvrières ne puissent pas sortir librement.
Ah ça s'est passé en 1911, cette histoire-là. Alors d'abord, des ouvrières qui brûlent dans une usine dont les issues ont été fermées pour qu'elles puissent pas sortir, ça se passe pendant tout le 19e siècle et ça se passe en ce moment même dans certains pays, en particulier au Bangladesh. Donc c'est une histoire récurrente. Alors, l'histoire de ces femmes qui meurent dans un accident industriel, elle est réelle, celle-là. Mais la grève du 8 mars 1957 ne l'est pas. Et Françoise Pic a montré qu'en plus, le 8 mars 1957, c'était un dimanche.
Oui, bon. Donc en 1857, mythologie inventée. Bon.
Ce qui n'empêche qu'il y a eu de très nombreuses grèves aux États-Unis, chez les ouvriers et chez les ouvrières, au 19e siècle.
Ça n'est pas une vérité historique, mais il y a de la vérité dans ce mythe.
Si on veut.
Voilà. Bon, alors, pour ouvrir un peu notre réflexion, au fond, j'aimerais vous demander, autour de cette question du 8 mars, qui est l'occasion de parler des femmes dans le monde et de leur situation réelle, quels sont, selon vous, Elisabeth Crémieux, les chantiers qui sont prioritaires pour les femmes et les féministes, à la fois ici en Europe et dans le monde? Vaste question, j'en conviens.
Vaste question. Alors, pour répondre, il faut, à mon avis, bien savoir qui sont les ennemis des femmes. Les femmes ont trois ennemis. Le patriarcat, qui est un héritage universelle, qui considère que les femmes sont inférieures aux hommes, doivent être soumises aux hommes, punies si elles se révoltent contre les hommes, et qui fait que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Le deuxième ennemi, ce sont les fondamentalismes religieux, parce que les religions sont nées il y a longtemps et elles ont sacralisé le patriarcat. Et le troisième ennemi, aujourd'hui, et d'ailleurs au XIXe siècle, c'est le libéralisme. Parce que le libéralisme, ça signifie moins de protection de l'État et plus de flexibilité du travail. Et la flexibilité du travail, c'est la précarité du travail. Et les femmes sont victimes de cette plus grande flexibilité et donc de cette plus grande précarité du travail. Alors, une fois qu'on a identifié les ennemis,
oui.
Eh bien, les femmes doivent se battre sur tous les fronts à la fois. D'abord, elles doivent se battre pour le droit à la vie, parce qu'en Asie, aujourd'hui, on élimine les fœtus féminins. Mmh. Et il y a plus de 100 millions de femmes manquantes en Asie. Elles doivent se battre contre les violences, qui restent la première cause de mortalité des femmes de 15 à 44 ans dans le monde. Alors, depuis 1999, il y a, le 25 novembre, une journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elles doivent se battre pour le droit à l'autonomie, c'est-à-dire à l'éducation et au travail. Et il y a beaucoup de pays où le taux d'activité des femmes est très faible, par exemple au Moyen-Orient. Elles doivent se battre pour l'égalité des droits dans le mariage. Je rappelle qu'il y a 48 pays aujourd'hui dans le monde qui autorisent la polygamie. Elles doivent se battre pour leur liberté sexuelle, pour la contraception, pour l'avortement. Donc, ce sont autant de chantiers qui sont prioritaires, en même temps qui sont liés d'ailleurs. Et dans tous les pays du monde aujourd'hui, vous avez des féministes qui s'organisent, qui agissent, qui se mettent quelquefois en danger pour faire progresser la condition féminine.
Alors, question qui est liée à ce que vous venez de dire. Si on fait un tableau de la condition féminine aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce qui vous semble à la fois le plus alarmant et le plus important ?
Le plus important, c'est qu'il y a eu depuis 60 ans des progrès de la condition féminine dans beaucoup de pays. Et en particulier le droit à l'éducation, le droit au travail, des progrès aussi de la santé des femmes, même si on n'est pas arrivé dans beaucoup de pays à un niveau satisfaisant. Le plus alarmant, c'est que malheureusement, dans beaucoup de pays, et même dans certains quartiers de nos pays, il y a des régressions des droits des femmes.
Vous pouvez en donner des exemples ?
Eh bien, il suffit de penser à l'Iran qui, depuis 1979, a vu une régression du droit des femmes. Il suffit de penser à l'Afghanistan. Il suffit même de penser à ce qui se passe dans certains quartiers des banlieues françaises où les filles de nos jours ne sont pas libres de s'habiller ou de se coiffer comme elles veulent, tellement elles sont en butte au machisme des garçons.
Droit à l'éducation, droit à la liberté de choix, des époux, voilà.
Oui, tout ça.
Sur tous les fronts. Alors, vous venez donc de publier cet ouvrage sur les migrations. Je voulais, Elisabeth Crémieux, vous poser la question suivante. Aujourd'hui, dans l'histoire des migrations, est-ce que les migrants sont aussi des migrantes ? Et quelle est la situation qui est dévolue aux femmes dans ce rapport aux migrations ?
Oui, aujourd'hui, la moitié des migrants sont des migrantes. Et il y a, comme toujours, des femmes qui migrent avec leur mari ou pour rejoindre leur mari. Mais il y a de plus en plus de femmes qui migrent seules. Et ces femmes connaissent les mêmes problèmes que les hommes en migration et des problèmes spécifiques liés à leur genre ou à leur sexe, on dit comme on veut, et en particulier violences sexuelles, prostitution forcée, et les femmes sont les premières victimes de la traite, qui est un phénomène d'une très grande ampleur, dont on ne parle pas assez à mon avis.
Et ça veut dire quoi pour les auditeurs, la traite ?
La traite des femmes, c'est le fait qu'elles sont recrutées soit par tromperie, soit par force dans un pays, acheminées dans un autre pays où elles seront très vulnérables puisqu'elles ne connaîtront personne, elles ne parleront pas la langue, et la plupart du temps, contraintes à la prostitution. Alors on estime que sur 100 personnes victimes de la traite, il y a 80 femmes. Et sur 80 femmes victimes de la traite, il y en a 80% qui sont soumises à l'exploitation sexuelle. Et c'est un problème dont, à mon avis, on ne parle pas assez.
Bien sûr. Je vous remercie de l'avoir évoqué. Ma dernière question, Elisabeth Crémieux, concerne le rationalisme et les femmes. Est-ce que vous pourriez me dire, ou nous dire, dire aux auditeurs de France Culture, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de s'occuper de la condition féminine et d'être rationaliste ?
Eh ben, il y a un lien parce que c'est le rationalisme qui a le premier soumis toutes les traditions à la critique. Ce sont donc les rationalistes qui les premiers ont remis en question l'infériorité de la femme. C'est un mouvement qui démarre pendant le siècle des Lumières. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des hommes féministes au siècle des Lumières, au premier rang desquels Condorcet. Mmh. Et donc pour moi, le rationalisme, c'est un des outils des femmes, c'est un des outils de la lutte des femmes.
Alors Condorcet, c'est celui qui a promu l'éducation pour les femmes.
Oui.
Et peut-être pourrions-nous dire que l'éducation des femmes, c'est le chemin le plus direct vers l'émancipation ?
Absolument. Sans éducation, pas d'émancipation.
C'est sur ces derniers mots, Elisabeth Crémieux, que nous allons clore cette émission. Je vous remercie.
Merci à vous.
Je rappelle que les derniers numéros de Raison Présente concernant la question des femmes sont les numéros « Genre et santé au travail », le numéro sur les émancipations plurielles, le numéro sur « Sexualité et normativité », le dernier numéro de Raison Présente porte sur « Les Lumières et les Hommes ». Je remercie Dany Journaud et Jacques Hubert d'avoir rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain. We'll be right back.